16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures d'histoire rieuse, sans prise de tête, surtout en cette fin de semaine. On est tous un peu fatigués et on a hâte, comme mon fidèle complice Stéphane Bern, qu'arrive enfin l'heure de l'apéro pour relâcher la pression et se sentir enfin dans quelques heures complètement détendu.
Voire même complètement bourré.
Oui, ça c'est vous qui voyez. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous savez bien que je ne bois que des vitellements.
Oui.
Enfin, ravi en tout cas de vous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui aux reines. Ah mais pas n'importe lesquelles, des reines sans couronne. D'abord, celle qui dirigea le royaume de France sans en avoir les fonctions, la mère du roi François Ier, Louise de Savoie. Et vous verrez qu'elle savait y faire avec son fiston. Puis, dans un tout autre genre, je vous raconte Lady Esther Stanhope, une aristocrate anglaise, véritable amazone, sacrée reine de Palmyre, mais sans couronne. Sauf peut-être de fleurs qui, pour elle, auront une vraie valeur. De votre côté, Mathieu, fidèle à notre répartition, à moi les morts, à vous les vivants, vous nous parlerez d'une reine sans couronne plus contemporaine.
Oui, et surtout, un peu plus célèbre auprès des jeunes que Louise de Savoie, la reine de la pop Queen Bee, Beyoncé. Beyoncé, une star qui ne laisse personne indifférent, pas vrai David?
Oh la belle!
Restons classe, mon vieux, restons classe. Justement, normalement, sur le papier, ils devaient être classe. Ils ont été triés sur le volet avant de les recruter. Stéphane a tout testé chez eux.
Le corps, le sexe, les fesses, la peau et le cerveau.
Oui, vous avez failli oublier le cerveau. C'eût été dommage. Voici nos chroniqueurs, Stéphane.
Et oui, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, et bonjour. Je commencerai cette émission par une petite devinette pour vous. Je suis une très très grande dame. Je porte une couronne, mais je ne suis ni reine, ni miss. Et Stéphane Bern mesure 27 cm de plus que mon nez. Qui suis-je?
Ah bah, statue de la liberté.
Voilà. Exactement, voilà. Oh, exactement. Et cette année, ça fera 140 ans que les États-Unis recevaient officiellement ce cadeau de la France. Je m'en vais vous en parler.
Avec nous, David Castello-Lopez, qui remonte aux origines. Une origine d'une invention.
Oui.
D'une...
oui.
Tout et aujourd'hui, pourquoi vous faites le V de la victoire?
Oui, le V de la victoire qui est aussi le V de simplement genre « Oh, je suis content pour une raison indéterminée » qu'on voit chez les touristes asiatiques en particulier.
Oh, les touristes asiatiques.
Oui. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu.
Oui,
c'est vrai. Il nous manque. Lui aussi, il nous manque de temps en temps. C'est Olivier Pouls, notre expert gastronomique.
Pourquoi vous avez une culotte de peau aujourd'hui?
Une culotte de peau?
Oui.
Vous... Ah, c'est rapport à la Bavière, peut-être, dont pourrait être originaire le plat dont nous allons parler dans un instant.
Il faut suivre le cheminement dans les neurones de Stéphane.
Je ne sais pas yodeler, en revanche.
Oui, c'est pas grave.
Mais je peux vous donner la recette du bavarois.
Vous ne savez pas yodeler, vous, Stéphane?
Non, mais vous, oui.
Ah non, pas du tout. Non, je ne sais pas que quelqu'un soit capable de le faire.
La grande duchesse de Gérolstein.
Je ne sais pas le faire, mais je m'entraînerai.
La la la,
on y était presque.
C'est vous qui venez de suivre ce qu'il disait Heidi, les garçons.
En Bavière, c'est très
beau. On lit Heidi, mais on ne fait pas le yodel. En tout cas, on va parler du bavarois.
Ouais. Oui, c'est quoi le bavarois?
Mais c'est un entremets, un dessert. Alors il y a deux types de bavarois.
C'est quoi un entremets? J'ai jamais compris ça.
Un dessert.
C'est un dessert. Non, un dessert froid.
C'est quoi la différence?
Parce entre les mets.
C'était entre les mets. En fait,
il y a si c'est un entremets, ça veut juste
si
dire
c'est
dessert.
Un dessert, c'est pas entre les mets.
Bah, oui, mais il y a plusieurs. Vous savez, oui, les services étaient très longs.
C'est le plat de résistance, l'entremets, du coup.
Non.
Enfin, les amis, pire qu'une reine sans couronne, un roi sans euro. La tradition est cruelle, mais c'est la tradition. -10.
Mais vous êtes obligé chaque jour de dire
jouerons.
Finalement, il a gagné le quiz.
Nous jouerons.
C'est dommage.
Mais parfois, il vous arrive quand même de gagner une fois
sur 10. Un coup de demi-point donné de façon totalement inique, il arrive que vous gagnez, en effet.
Nous jouerons à Bern to be alive, le quiz qui dévoile l'état réel des connaissances historiques de Stéphane Bern. Sans prompteur, c'est moche. Mais tout de suite, évoquons notre première reine sans couronne. Stéphane Bern nous raconte Louise de Savoie.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans la famille des mères de rois régentes du royaume, vous connaissez Blanche de Castille, Catherine et Marie de Médicis, ou encore Anne d'Autriche, mais peut-être moins Louise de Savoie, qui elle n'a jamais été reine, ni fille de roi, ni épouse de roi. Elle se contente d'être mère de roi, mais pas n'importe lequel, le plus grand, le grand François Ier, aux côtés duquel elle a, on peut le dire, quasiment régné. Louise de Savoie naît en septembre 1476. Son père, surnommé Philippe Santerre, futur duc de Savoie, est occupé à ses affaires. Sa mère, Marguerite de Bourbon, meurt lorsqu'elle n'a que 7 ans. Louise est alors envoyée à la cour de France auprès de sa tante, la régente Anne de France, dite Anne de Beaujeu, qui se charge de son éducation avant de la donner en mariage à un grand seigneur du royaume, le comte d'Angoulême, Charles d'Orléans. Le mariage est célébré en 1488. Louise a 12 ans.
Oh là là.
Oui, on se mariait tôt à l'époque. 2 ans plus tard, elle débarque à Cognac chez cet époux qui, en plus d'avoir le double de son âge, vit déjà avec 2 maîtresses. Loin de se morfondre, Louise affronte la situation avec panache et fait de ces demoiselles de précieuses alliées. La diplomatie est un don inné chez elle.
À 12 ans.
Là, elle en avait peut-être 14. À peine pubère, Louise a du mal à donner des enfants à son mari. Lors d'un voyage à Tours, elle rend visite au religieux François de Paule. Celui-ci lui promet un fils dont le destin sera extraordinaire. Depuis cette rencontre, elle croira toujours en sa bonne étoile. En 1492, elle accouche d'une fille, la célèbre Marguerite d'Angoulême, future Marguerite de Navarre. 2 ans plus tard, chose promise, chose due, un fils voit le jour, il s'appelle François. Charles d'Orléans meurt en 1496. À 19 ans, Louise est trop jeune pour disposer seule de la tutelle de ses enfants et doit la partager avec Louis d'Orléans, plus proche parent mâle de ses enfants. Mais à la mort inattendue du roi Charles VIII, qui, rappelons-le, s'est violemment pris un mur à Amboise, Louis d'Orléans devient roi de France sous le nom de Louis XII. En 1499, il fait venir Louise et ses enfants à sa cour à Chinon, puis les envoie au château d'Amboise avec le maréchal de Gier, un personnage avec lequel Louise de Savoie doit composer. Mère Poule, elle dort dans la même chambre que ses enfants. Intellectuelle avant l'heure, elle les élève de la meilleure des manières. La devise de sa famille, Libris et Liberis, pour mes livres et pour mes enfants, résume les 2 grandes passions de sa vie. En même temps qu'elle éduque ses enfants, Louise de Savoie garde un œil attentif sur le ménage royal. Pour l'instant, son fils est l'héritier présomptif de la couronne. Mais ça ne va peut-être pas durer. Anne de Bretagne, l'épouse de Louis XII, accouche de Claude, puis de René. Mais ouf, ce sont des filles.
Ah, même Claude.
Les garçons ne vivent pas. Oui, Claude, c'est elle qui a donné la prune, la reine Claude. Les garçons ne vivent pas, Louise s'en réjouit. Elle écrit dans son journal « Anne, reine de France, à Blois, le jour de la Sainte Agnès, 21 janvier, eut un fils, mais il ne pouvait retarder l'exaltation de mon César, car il avait faute de vie. » Elle a du mal à cacher sa joie.
Oui,
en 1506, Louis XII annonce les fiançailles de François d'Angoulême avec sa fille Claude de France. Mais après la mort d'Anne de Bretagne, il épouse en seconde noce la très jeune Marie Tudor. Va-t-elle enfin donner un héritier au roi de France? Eh bien non. Louis XII meurt en janvier 1515. François Ier, le César triomphant dont parlait sa mère, monte alors sur le trône. Dès l'avènement de son fils, Louise de Savoie se fait donner le titre de duchesse d'Angoulême et d'Anjou et le comté du Maine. Lorsque François Ier part guerroyer dans le nord de l'Italie, elle est nommée régente. C'est en juillet 1515. Une régence limitée par l'absence d'un objet, le grand sceau, qui permet d'authentifier les documents officiels, mais que le roi a emporté avec lui. Régence ou pas, Louise de Savoie a pendant les 15 premières années du règne de François Ier les manettes du pouvoir. Injustement oublié, son rôle dans la Renaissance est immense. Bibliophile avertie, amatrice d'œuvres d'art, elle protège artistes et poètes et encourage la création artistique et littéraire dans tout le royaume. Elle incite son fils à inviter un peintre italien en France à l'automne 1516, un certain Leonardo da Vinci, qui est lui dans les dernières années de sa vie. À la cour et au conseil, principal organe de gouvernement en cette fin du Moyen-Âge, Louise de Savoie a une influence considérable et un rôle primordial. Elle contrôle les entrées et les sorties. Madame confirme dans leurs fonctions des techniciens de haute volée, anciens serviteurs de Louis XII, comme le trésorier Florimond Robertet ou le financier Jacques de Beaune, baron de Semblançay. Et elle introduit des nouveaux venus comme René de Savoie, qui n'est autre que son frère. Les sorties se font avec une mise en scène quasi théâtrale, comme celle du connétable de Bourbon, qui se retrouve à la mort de son épouse Suzanne de Bourbon à la tête d'une énorme principauté en plein cœur du royaume de France. Louise de Savoie, cousine germaine de la dite Suzanne, conteste le testament et réclame l'héritage. Une solution s'offre au connétable. Se soumettre, au prix de son rang et de son honneur, ou se révolter, bon, ce qui est synonyme de trahison. Il opte pour la 2e option et rejoint les ennemis de la France et l'empereur Charles Quint, dont il épouse l'une des sœurs. En 1523 se déroule ainsi l'une des plus grandes trahisons de l'histoire de France. En réalité, Louise de Savoie vient d'éloigner de la couronne l'un des derniers grands féodaux du royaume. 5 ans plus tard, elle participe à traîner en justice le baron Semblançay, surintendant des finances de François Ier, condamné à être pendu après un simulacre de procès. Il aurait puisé dans sa fortune à elle pour alimenter celle du royaume. À l'intérieur, le ménage est fait. Reste maintenant, voyez-vous, Mathieu, à s'occuper des puissances étrangères. Et tout particulièrement lors de sa seconde régence en 1525, son fils, vous le savez, sans doute est fait prisonnier en Italie après la piteuse défaite de Pavie. Depuis l'abbaye de Saint-Just, près de Lyon, Louise de Savoie règne en maîtresse sur le conseil pendant 2 ans. Elle maintient l'ordre à l'intérieur du royaume tout en assurant la sécurité des frontières. François Ier est libéré suite à la signature d'un traité humiliant. Il faut céder le duché de Bourgogne et les 2 fils du roi deviennent otages de Charles Quint. De retour en France, François Ier casse le traité mais ne peut revenir en arrière sur l'une des clauses. Ses 2 aînés de 7 et 9 ans se morfondent pendant plusieurs années dans une vieille forteresse médiévale au fin fond de l'Espagne. Louise de Savoie joue encore de son influence diplomatique. Déjà en 1519, elle s'est investie dans l'organisation de la rencontre entre son fils et Henri VIII, vous savez, le célèbre camp du Drap d'Or. Wolsey, principal ministre du roi d'Angleterre, la qualifie de mère et nourrice de la paix. En août 1529, Louise de Savoie négocie et signe avec Marguerite d'Autriche, tante et marraine de Charles Quint, la paix de Cambrai, aussi appelée paix des dames. François Ier renonce à ses prétentions italiennes. En échange, il retrouve ses fils, mais surtout, il garde le duché de Bourgogne. Il peut dire « merci maman ». Après 16 ans à observer, conseiller et agir d'une main de reine, Louise de Savoie meurt le 22 septembre 1531, à l'âge de 54 ans, près de Fontainebleau. Son fils n'est pas présent, il chasse à Chantilly en compagnie d'Anne de Montmorency qui prendra la relève de Louise aux côtés du roi. À l'annonce du décès de sa tendre mère, François Ier ordonne des obsèques quasi royales. Une effigie, honneur traditionnellement réservé au cérémonial funèbre des rois et reines de France, repose sur le cercueil. Cette effigie porte un manteau ducal et une couronne ducale. Même dans la mort, Louise de Savoie ne fut donc jamais tout à fait reine.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la méconnue, finalement, Louise de Savoie, nous sommes avec l'historienne Aubrey David-Chappy. Bonjour Aubrey.
Bonjour.
Bonjour Aubrey David-Chappy. Vous êtes professeur agrégé spécialiste de l'histoire des femmes de pouvoir à la Renaissance, en particulier de Louise de Savoie, à qui vous avez consacré en grande partie votre thèse publiée chez Classique Garnier. Louise de Savoie n'était ni fille de roi, ni épouse de roi, et pourtant, elle a régné comme telle. C'est au fond le paradoxe de cette grande dame de l'histoire.
Oui, c'est finalement l'une des seules, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à avoir eu autant de pouvoir sans jamais avoir porté de couronne, si ce n'est la couronne ducale, mais finalement, c'est peu de choses à côté de celle des rois.
Orpheline de sa mère à 16 ans, vous l'avez dit,
veuve à 7
de...
ans.
À 7 ans, et non pas à 16 ans, parce qu'à 16 ans, elle avait déjà fait une grande partie de
Elle était déjà mariée.
Veuve de Charles d'Orléans à 19, elle n'a pas été épargnée par la vie. Vous diriez que ses coups l'ont endurci et ont contribué finalement à forger ce caractère de gouvernante, de reine.
Il était assez courant d'être orphelin à 7 ans à la Renaissance, mais elle a été menée de la cour de Savoie à la cour de France. On dit qu'elle n'a pas été très aimée par Anne de France, sa gouvernante, enfin celle qui l'a éduquée, et que Anne de France préférait largement Marguerite d'Autriche, la future tante de Charles Quint, celle qui était destinée à devenir reine de France, puisqu'elle devait épouser Charles VIII. Et donc, on dit que Louise de Savoie en a gardé un profond dépit, une profonde amertume, et que, en effet, elle n'a pas été très heureuse quand elle était petite. Et cela a pu lui forger ce caractère très assuré.
Oui. Bon, c'était pas une gentille non plus, Louise de Savoie, on peut se le dire entre nous.
Non, c'était pas quelqu'un de particulièrement agréable, hormis avec son fils.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est son César triomphant, elle l'appelait César, alors qu'il s'appelait François. Première femme à porter le titre de régente de France, elle n'était pas spécialement préparée d'ailleurs à cette vie de femme politique en quelque sorte. Comment a-t-elle transformé l'essai avec succès, selon vous et comment a-t-elle fondé sa propre légitimité dans une cour qui ne l'aimait pas?
Il faut dire qu'elle doit tenir a priori de son père un certain talent diplomatique, un talent politique. C'était quelqu'un de très fin. Elle aussi est une personne très fine. Et elle n'a pas été préparée, en effet, à être mère de roi. Hein. On n'aurait jamais pu penser au départ qu'elle le serait un jour. Mais elle a quand même vécu à la cour de France, donc elle a dû observer tout ce qui s'y passait, les arcanes du pouvoir. Elle a été en contact avec des femmes de pouvoir, notamment avec Anne de France. Et donc, elle a reçu une éducation aussi de princesse qui l'ont préparée à devenir cette grande femme de pouvoir.
On lui prédit à un moment que son fils sera un grand homme. Est-ce que ça a pu jouer dans la psychologie ensuite de François Ier, la manière dont elle l'élève pour qu'il devienne un grand homme ?
Louise de Savoie, en tout cas, était persuadée qu'un jour son fils serait un grand homme. Elle était persuadée qu'un jour il serait roi, comme vous l'avez dit. Elle n'attendait que ce moment.
Alors
elle n'attendait que ça.
C'était pas gagné qu'il soit roi déjà.
Il fallait que toute la famille bouffe des champignons empoisonnés. Enfin, cela dit, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une hécatombe incroyable qui amène François Ier sur le trône.
Oui, parce qu'en plus, Louis XII a finalement eu beaucoup d'enfants avec Anne de Bretagne, et par chance, aucun garçon ne survit. Enfin, par chance pour Louise de Savoie. Il se marie ensuite avec la jeune Marie Tudor, mais bien, Louis XII est bien vieux, donc évidemment, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et à chaque fois, eh bien, elle se réjouit de la mort de ses enfants. C'est quand même un petit peu particulier, surtout de le garder par écrit, de l'écrire.
Oui, vous avez lu un extrait.
Comme vous l'avez lu tout à l'heure, c'est un peu particulier de se l'avouer et de l'avouer aux autres.
Oui, c'est fou. Au fond, François Ier n'aurait pas été le roi qu'il est devenu sans maman.
Non, d'abord parce que elle a élevé son fils. C'est elle qui l'a éduqué, elle aussi, qui l'a éduqué à la Renaissance, qui l'a éduqué aux arts, qui l'a éduqué à la littérature. Et c'est elle aussi qui l'a influencé à de très nombreux points de vue, politiquement, donc, religieusement un petit peu aussi. C'est elle qui l'a influencé donc culturellement, intellectuellement. Donc elle a véritablement fait son fils. Elle apparaît même comme le compas du dauphin sur une miniature, c'est-à-dire celle qui trace tout pour le dauphin.
C'est fou. Mais à aucun moment, quelqu'un à la cour a dit « Attendez, qui t'a fait reine ?» Personne n'a contesté le pouvoir de Louise de Savoie.
Alors, elle a été très peu contestée puisqu'elle était la mère du roi. Donc, puisque le roi la légitimait dans son pouvoir, et l'avait notamment légitimée par des lettres patentes pour la faire régente, on ne pouvait pas trop contester son pouvoir. Le seul à avoir véritablement contesté ce pouvoir, c'est le Parlement dans les années 1525, quand François Ier est fait prisonnier à Pavie. Il lui dit « Stop, vous avez trop de pouvoir ». Et maintenant, il faut arrêter.
Parce que le connétable de Bourbon, qui s'est opposé à elle, on a vu ce qui lui est arrivé. Enfin, c'est une autre histoire.
Oui. Vous écrivez « Louise de Savoie construit à la fois le personnage de la régente en même temps qu'elle intensifie l'imaginaire qui entoure le roi ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Elle se construit une figure de régente au sens où elle invente un protocole pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle est elle est le deuxième personnage après la reine. Dans toutes les manifestations publiques, dans toutes les manifestations royales, elle est là. Quand on glorifie...
Elle n'est pas discrète, c'est pas quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Elle travaille à sa propre...
glorification.
Glorification, on peut le dire, je pense.
Oui, elle est même présente dans les entrées royales. Normalement, eh bien, il y a le roi, son épouse. Eh bien, elle est là, toujours la troisième. Et puis, figurez-vous qu'à un certain moment... il n'y a plus de reine, puisque Claude de France meurt en 1524 et elle n'est pas remplacée tout de suite. Eh bien, quelle est la première figure féminine du royaume, finalement ? C'est Louise de Savoie. Donc, elle se crée ce personnage très particulier à la cour, un personnage qui n'a auparavant jamais existé, de mère du roi, comme cela. Et elle glorifie, elle crée un imaginaire autour de la personne du roi parce qu'elle va faire travailler des auteurs à la gloire de son fils, et elle va certainement les influencer sur ce qu'ils doivent dire sur le roi. et sur elle. Et créer aussi une certaine distance autour du roi, puisque pour accéder au roi, il faut passer par elle.
Mais c'est une vraie mater régis, c'est-à-dire, c'est un cas particulier dans l'histoire de France. Elle est à la fois reine et mère. Très peu ont été les deux.
Elle est presque reine.
Vous aimeriez, hein.
Non, mais elle se comporte comme une reine. En tout cas, elle est une vraie mère.
Ah oui. la chose la plus importante pour elle, ce sont ses enfants, puisqu'elle a à la fois François Ier et puis Marguerite d'Angoulême, qui fait partie de ce que certains auteurs de l'époque ont appelé la Trinité.
Oui,
donc, même avec un sens religieux à la Trinité, sachant qu'évidemment Marguerite est quand même le personnage le moins important de cette Trinité.
Le moins important, mais dans l'histoire de France, pardon de faire cette incise, mais Marguerite d'Angoulême est la première femme à écrire des livres. Elle deviendra duchesse d'Alençon et ensuite reine de Navarre, et elle est la grand-mère d'Henri IV. C'est la première femme de lettres vraiment en France.
Oui, c'est une grande femme de lettres, en effet. Et elle-même met aussi son talent au service de son frère,
qu'elle
aime de manière démesurée, elle aussi. Hein. Il est aimé par ces deux femmes de manière démesurée.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie François Ier à l'école, on a l'impression que c'est un roi qui décide tout. En fait, sa mère, très longtemps, lui souffle à l'oreille. Enfin, elle le guide beaucoup quand même, elle l'influence énormément.
Oui, elle l'influence. Alors, parfois, il fait ce qu'il veut, notamment quand il s'agit d'aller à la guerre.
Ah oui, elle n'arrive pas à freiner son côté
va-t-en-guerre. Le côté va-t-en-guerre, elle n'arrive pas à le freiner. Elle voudrait qu'il reste en France, parce qu'elle sait qu'un roi qui est hors du royaume, c'est dangereux pour le royaume. Et la preuve en est, il est fait prisonnier par Charles Quint en Italie. Il est ensuite, vous l'avez dit, prisonnier à Madrid. Donc, elle sait que c'est dangereux. Elle sait aussi que la guerre, c'est très cher, ça coûte très cher à l'État et qu'évidemment, il faut augmenter les impôts, que ça crée une instabilité dans le royaume. Et tout ça, en fait, elle va être obligée de le gérer puisque son fils ne l'écoute pas, il part.
Elle est à l'arrière, elle est restée au pays et il y a toutes les... Oui, il y a cette
celle
instabilité.
Elle tient la baraque.
Elle essaye de rétablir la stabilité dans le royaume parce que les choses ne vont pas très bien à l'intérieur. On commence à voir les débuts de la réforme protestante. On a aussi des hommes d'armes qui circulent dans le royaume et qui sont assez dangereux. Donc, il y a la paix à rétablir à l'intérieur du royaume. Et puis, à l'extérieur, elle essaye de faire la paix avec l'Angleterre, avec l'Empire, hein, parce qu'évidemment, on est en guerre un petit peu contre tout le monde en Europe à cette époque.
En quoi est-ce qu'elle a inventé le pouvoir au féminin, pour reprendre le titre de votre travail ? Est-ce qu'on peut dire, enfin, c'est vraiment peut-être un anachronisme, qu'elle était féministe avant l'heure ?
Je ne sais pas si on peut dire que c'était une féministe avant l'heure, dans la mesure où elle assume véritablement son rôle de mère. Et ça, quand même, c'est la chose la plus importante pour elle. Mais comment dire, elle ose aussi se conduire en homme, elle se conduit en véritable roi. Et en tout cas, quand elle est morte, son fils lui a rendu hommage de cette manière en disant qu'elle s'était véritablement comportée comme un homme au pouvoir. Mais comment invente-t-elle le pouvoir au féminin ? En fait, en mêlant des aspects féminins de sa personnalité à des aspects masculins, finalement. Comment dire ?
Une certaine dureté, d'ailleurs, à la fois de la diplomatie et une main de fer.
Une main de fer, de la diplomatie, en effet, mais c'était quelqu'un qui était assez dur, hein, qui osait s'opposer et s'imposer.
Et c'était quelqu'un qui avait aussi un goût artistique, alors on en a parlé, c'était une vraie femme de la Renaissance.
Ah oui, c'est une véritable princesse de la Renaissance.
On dit François Ier, le prince des arts, c'est surtout Louise de
maman,
Savoie.
Où les deux, ils ont un véritable goût et ils ne se trompent pas, puisqu'en effet, quand elle fait venir, quand ils font venir Léonard de Vinci au Clos Lucé à Amboise, évidemment, ils ne sont pas trop trompés hein, sur le personnage. Et ils ont fait travailler énormément d'artistes exceptionnels à la cour, en effet. Elle est certainement aussi derrière une partie des chantiers architecturaux du roi, hein, par exemple.
Et c'est pour elle qu'il voulait construire cette capitale à Romorantin. Cette ville complètement imaginée.
Idéale.
Ville idéale. Oh, par chance, on n'avait pas l'argent pour le faire. un dernier mot, Aubrey David Chappie, par exemple. Est-ce que, on dit toujours François Ier, un grand roi, certains historiens sont revenus sur l'image de François Ier. Au fond, François Ier, c'est plutôt Louise de Savoie.
C'est un couple, finalement. Quand les ambassadeurs parlaient d'eux, ils disaient toujours le roi et madame. Et finalement, donc, c'est cette idée de couple. Alors, ce n'est pas le mari et la femme, c'est le fils et sa mère. Et en effet, en fait, je pense qu'on avait vraiment besoin des deux pour faire une figure exceptionnelle et pour que ça marche, dans la mesure où ça a marché, à la tête du royaume.
Très bien. Merci beaucoup, Aubrey David Chappie, pour cet éclairage sur Louise de Savoie. Je crois que vous êtes sur l'écriture d'une biographie d'une autre grande dame avec qui elle partage nombreux points communs, Anne de France.
Oui.
Anne de Beaujeu aussi.
Anne de Beaujeu, oui.
Une duchesse de Bourbon.
Ça fera l'objet d'une nouvelle émission.
Et puis alors, surtout, vous allez aller à Moulins, qui est l'une des villes, de mes villes préférées en France.
Oui.
Magnifique, à Souvigny, enfin, voilà.
Voilà, pour le 500e anniversaire de la mort d'Anne de France en 2022.
Très bien, on a hâte de la lire, revenez nous voir. Enfin, si on est encore là en 2022.
Stéphane, soyez optimiste.
Mais on ne sait pas, vous avez... On va de pandémie en pandémie. C'est un peu comme au Royaume de France, là, on est...
C'est ça.
Hein, on est sujet aux caprices de la nature.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui souvent nous dépassent. C'est pour elle d'ailleurs qu'Aïda a créé les trompettes de la renommée. Clémentine Portier Kaltenbach. Et elle peut vous chanter l'air de...
Oui, bien sûr, je connais par cœur. Une fois par semaine. Oui.
Je vous ferai une autre fois les chants de la Légion.
D'accord,
s'il vous plaît.
Et de la Commune aussi.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'une statue qui nous dépasse, qui dépasse d'ailleurs son rôle, celle de la liberté.
Oui, parce que, voyez-vous, ça va faire 140 ans que les États-Unis ont reçu officiellement la statue de la liberté. C'était le 24 octobre 1881. Alors, comment ça s'est passé concrètement? L'ambassadeur des États-Unis en France, qui s'appelait Morton, va étaler rue de Chazelle, où on allait édifier la statue de la liberté. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce jour-là? Bien sûr, vous le savez, Mathieu, parce que c'était l'anniversaire de la reddition anglaise à la bataille de Yorktown.
Bien sûr, ça me revient.
Le 24
ça
octobre.
Ça me revient maintenant.
Oui, bien sûr, voilà. Alors, concrètement, que fait Morton? Il prend un rivet, là, et puis il fixe le pied de la statue, le pied gauche, à son support, si vous voulez. Ça a été ça, la réception officielle de la statue de la liberté. C'était à Paris, dans le 17e rue de Chazelle, dans l'atelier de fonderie Gagé-Gauthier, qui était... un atelier qui avait pignon sur rue parce qu'il avait déjà reçu les débris de la colonne Vendôme. Et pendant toutes ces années, passé rue de Chazelle, tout Paris se rendait là-bas. Il y a des cartes postales magnifiques, on voit cette tête
qui
émerge.
Qu'est-ce qu'elle
est belle, cette photo, bien sûr. Alors, la statue de la liberté va recevoir de nombreuses visites.
On payait pour aller dîner ou faire des visites.
On payait parce qu'il fallait... Il y avait une souscription nationale qui était close. Mais il fallait, bon, pour les derniers petits fignolages, 3 sous, ça servait toujours, donc on payait. Alors le général Grant lui a rendu visite à l'automne 1877. Bartholdi, vous le disiez, oui, Stéphane, a organisé un dîner pour 25 personnes dans la jambe droite de la liberté. C'était drôle de dire ce soir, voilà, retrouvons-nous, madame, dans la jambe droite de la liberté. Jules Grévy, président de la République, va lui rendre visite en mai 1883, mais aussi et surtout Victor Hugo. Et Victor Hugo, il va avec sa petite fille Jeanne, et il est alors un très vieux monsieur, puisqu'on est en 1883, donc il est à deux ans de sa mort. Et on raconte que dans l'assistance, quelqu'un aurait murmuré « Deux géants se regardent ». Et oui, c'est beau d'imaginer ça, Victor Hugo, montant à l'intérieur de la statue de la liberté, « Deux géants se regardent ». Alors, la grande question, alors d'abord c'est sa couronne. Est-ce que vous saviez que la couronne très piquante, là, à cette branche de la statue de la liberté, elle symbolise les 7 continents et les mers de la planète. Eh bien oui, voilà.
Alors, nous ne le savions pas.
Bon, alors bon, quant à savoir qui a posé pour la statue de la liberté, ben évidemment, grave question. On a longtemps dit que c'était la mère de Bartholdi, avec laquelle il s'entendait fort bien, et qui avait un visage assez austère. Alors il ne l'a jamais nié. Donc est-ce qu'il s'est un peu inspiré d'elle? On a parlé d'Isabella Eugénie Boyer, l'épouse de l'ingénieur Isaac Méry de Saint-Gerre, fondateur de la célèbre marque de machines à coudre. Il a participé au financement du projet, donc pourquoi pas penser que sa femme aurait pu servir de modèle, mais enfin, Bartholdi l'a rencontré alors que le visage de la statue de la liberté existait déjà. On a évoqué une révolutionnaire juchée sur une barricade, le visage d'une prostituée du quartier de Pigalle. On a même évoqué une certaine Sarah Koblenzer, épouse d'Adolphe Salmon, qui était un ami de Bartholdi, et on a trouvé en effet des dessins de la main de Bartholdi représentant cette dame, Sarah Koblenzer. Kenzer et la ressemblance est très frappante. En fait, le conservateur du musée de Bartholdi pense que tout ça, c'est de la légende, que Bartholdi voulait essayer d'imaginer un visage universel.
Mais le visage de la... Il est très neutre, hein, le visage.
Le visage de la liberté. Et probablement, s'est-il inspiré de toutes ces femmes en même temps et pas d'une en particulier.
Toutes les femmes sont belles, disait le poète.
Oui, c'est ça, ouais, espèce de faucheton, toutes les femmes. Alors, et elle a l'air austère, hein, la statue de la liberté, elle n'est pas commode. Elle a plus une figure de mère ou un peu de mère fouettarde, d'ailleurs, que de mon vieux, quand on sait que c'est elle qui accueille les malheureux dans la baie de New York. En tout cas, si la liberté, la grande, est new-yorkaise, il y en a des copies un peu partout, en France et dans le monde. Et est-ce que vous savez que celle que nous avons pas loin des studios d'Europe 1 est la plus grande statue de la capitale? Elle fait 11 mètres de hauteur et c'est le docteur Evans, qui était le chirurgien dentiste américain de Napoléon III, qui a suggéré à la communauté européenne, puisque la France offrait la grande statue de la liberté aux États-Unis, d'offrir ce monument à sa terre d'accueil à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Vous y penserez la prochaine fois que vous passez devant. Elle a été inaugurée depuis le sol, donc elle tournait le dos aux États-Unis parce qu'on voulait que le président Carnot puisse l'inaugurer depuis la terre. Et en 1937, on lui a fait faire marche arrière. Oui. Maintenant, elle fait face au continent américain. Il y a eu 50 ans plus tard, naturellement, cette copie de la flamme, très belle, très touchante, offerte par la communauté américaine de par le monde. Enfin, c'était une grande souscription. Je crois que c'était...
C'est le Herald Tribune.
Oui, vous avez tout à fait raison.
Et, le Herald Tribune.
Oui, et c'est devenu une sorte de mémorial
pour
à la
Diana,
princesse.
Oui, bien parce sûr. Que c'est la seule statue qui est proche du tunnel.
Oui, c'est triste. Mais en tout cas, si elle avait survécu au tragique accident qui lui coûta la vie, la princesse Diana aurait eu 60 ans le 1er juillet. Prochain. Et comme vos reines du jour, messieurs, elles non plus ne porteraient pas encore la couronne si elle avait survécu.
Elle est morte à quel âge, Diana ?
36 ans.
Ah oui, non, c'est extrêmement jeune. Moi, je la voyais, pour moi, c'était une dame, elle est plus jeune que moi. Quelle belle histoire, la statue de la liberté, c'est magnifique. Et n'oubliez jamais ce que disait le poète.
Toutes les femmes sont belles.
Vous ne connaissez pas Franck Michel ? Je trouve que vous avez de grosses lacunes.
Si, bien sûr, c'est une grande vedette. Bien sûr,
vous n'allez pas dans ses concerts.
Je vous verrai bien.
Non, c'est vous qui allez écouter Luis Mariano et Tino Rossi, hein. Donc pourquoi je n'irai pas dans les concerts de Franck Michel?
J'aime aussi.
Qu'est-ce que c'est que cette condescendance là,
hein? J'ai aucune condescendance.
Je suis une vieille dame, mais vous êtes un vieux monsieur.
Qui a payé la statue de la liberté américaine? On peut le rappeler quand même, qui a payé?
C'est les Français.
Eh ben voilà. Oui.
C'est nos impôts.
Nos impôts, c'est nos dons. Ce sont des loteries, sont des ventes de copies en poterie, ce sont des ventes de dessins de la main de Bartholdi, ce sont des buffets. Toutes les municipalités ont payé, bien sûr. C'est magnifique. Mais cela dit, je pense que tous les Français ne peuvent pas regarder la statue de la liberté sans émotion, sans se dire c'est quand même un cadeau de la... Oui, c'est un cadeau de la France aux États-Unis.
Quand je la vois, je pleure. C'est l'émotion qui remonte.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu.
Mais moi, je suis allé juste avant le confinement, figurez-vous. C'était pile poil le bon moment et j'ai pleuré devant la statue. J'ai pleuré parce que c'est l'émotion, ça vient de chez nous quand même.
J'ai un cœur là-dessus.
Je pleure souvent et je pleure surtout au moment du quiz. Quand j'entends vos réponses, on passe au quiz.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Je le disais en préambule de cette émission consacrée aux reines sans couronne de l'histoire, il y a pire qu'une reine sans couronne, un roi sans prompteur. C'est le cauchemar que vit celui qui est encore perçu par une majorité de Français comme le roi de l'histoire, mais jusqu'à quand ? Car à force de l'entendre se planter dans le quiz, la supercherie va bien finir par éclater au grand jour.
Peut-être que vous allez un jour faire un quiz avec des vraies questions historiques.
Qui sait ? Oui, et ce jour-là, vous nous trouverez au rendez-vous.
Ce jour est peut-être arrivé.
Parce que là, c'est des questions...
Arrêtez d'insulter le quiz avant même qu'il ait commencé. Jouons à Berne. Les amis. Première question, Stéphane. Vous vous posez, chers auditeurs, une question en histoire. N'hésitez pas, je vous donne le mail de Stéphane Bern. C'est simple, c'est stéphane.bern@europe1.fr. Il vous répondra. Fait amusant, le arrobas qui sert aujourd'hui dans les adresses mail date de la Renaissance. Vrai ou faux ?
Vrai.
Là, il n'y a pas eu de moment de réflexion.
Non, parce que je l'ai entendu.
Entendu, ça c'est une source précise.
J'ai entendu parce que, en fait, c'est une abréviation, c'est comme... quand on écrivait, on mettait le A avec... c'était une abréviation, c'est comme le E, l'esperluette, etc.
L'explication est foireuse, mais la réponse l'est-elle ?
Vous avez
C'est gagné, Stéphane. Bien joué. J'ai pas tout à fait compris votre explication, mais c'est vrai. Notamment dans le commerce, on s'en servait pour donner un prix à l'unité. Par exemple, si je vous dis 12 œufs, 3 euros, ça veut dire que l'œuf est à 3 euros pièce. Ce qui fait cher l'œuf, d'ailleurs, mais c'est un exemple. L'arobase vient de l'arabe aroub. Ça veut dire le quart. Ah, et vous voilà édifié. Question numéro 2.
Magnifique, magnifique, bravo.
Question numéro 2. Question littérature. Antoine de Saint-Exupéry disparaît en mer dans son avion au large des côtes marseillaises en 1944. Mais quand l'écrivain est né, est-ce que la marque de sous-vêtements Petit Bateau existait ?
Oh non, écoutez là, franchement. Saint-Exupéry, il est mort. Il avait pas la il allait friser la cinquantaine, me semble-t-il. Il n'était pas loin.
Donc il a dû naître en 1896.
Oui. Est-ce que Petit Bateau existait à cette époque ? Puis, comme d'habitude, hein, Stéphane, ça va se jouer à. Bah, ça va être à deux ans près, six mois.
Ça va être
je dirais non, il n'a pas pu. Est-ce que Petit Bateau a pu faire des caleçons longs, à votre avis?
Oh, ils ont dû en faire.
Oui, bien sûr.
Sûr, ça a dû commencer.
Ils auraient
comme
peut-être
ça.
Commencé par faire des caleçons longs à la fin du 19e, Petit Bateau. Non, je dis non.
Elle dit non.
Vous avez perdu.
Et Stéphane prend la main dans ce quiz éminemment historique.
Sur le caleçon de Saint-Exupéry.
Oui. Moi,
Vous avez ripé sur le caleçon de Saint-Exupéry. Oui. Clémentine, Petit Bateau existe depuis 1893. Antoine de Saint-Exupéry est né en... Donnez une date, Stéphane, et je vous donne un point supplémentaire si c'est la bonne date.
Je ne sais pas, je dirais 1896.
C'est raté. En 1900, à Lyon, cité qui vous est
oui,
chère,
sûr.
Stéphane.
Il y a toujours Saint-Maurice-de-Rémens, qui est sa maison natale, qu'on va essayer de restaurer... dans les prochaines années.
Mais oui, Stéphane, en plus, vous le saviez, puisque oui. On sait qu'il est né, qu'il est mort, il est mort en 44. Et il avait...
Ah, 44 ans.
Oui, moi je le pensais un peu plus vieux, j'aurais dit plutôt 40...
Il était plus jeune, c'est encore plus triste.
Oh,
mais
bon, donc il aurait pu...
Sinon je vais encore
il a pu porter des caleçons
de petit bateau. Le petit bateau a été créé en 1800...
93, disais-je. Oui. Voilà.
Ça s'appelait déjà Petit Bateau.
Ça s'appelait pas Gros Bateau. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je ne sais pas si vous aimez les orchidées, hein, mais sachez que Darwin s'est servi de son observation de ces fleurs pour établir sa théorie de l'évolution. Orchidée vient du grec orchis, qui signifie lieu où l'on danse. Vrai ou faux ?
Orchidée, ça vient... c'est sexuel, pardon, ça vient des
Bien
organes...
Bien sûr, je vous l'ai déjà raconté dans ce studio.
Des organes génitaux...
C'est testicules en grec.
Testicules en grec.
Orchis.
Vous avez gagné.
Je dis souvent à la personne qui prépare la question de ce quiz, évitons les questions avec des allusions sexuelles, car là, dans ce cas-là, tout ce qui est historique, il patauge un peu, mais dès qu'on est dans le sexe, tout de suite la réponse fuse des deux côtés. Tout de suite, c'est couille, testicule, ça va à toute vitesse. Ça, évidemment, orchis ne veut pas dire lieu où l'on danse, mais ça veut dire testicule, mais à votre décharge, c'était pas loin. Question numéro 4. Clémentine, c'est pour vous. Le 20 janvier... Attention, parce que là, il faut absolument marquer.
Bah oui.
Et c'est une question, me signale-t-on en régie, qui vaut 2 points. Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, mais le règlement a changé en cours de route. Question numéro 4. Le 20 janvier 2009, c'est une date symbole importante aux États-Unis. C'est l'investiture du premier mandat de Barack Obama. Il est le 44e président des États-Unis. Et parmi les personnalités présentes dans les officiels pour la cérémonie, un Français, Dick Rivers.
Oui.
Vrai ou faux ?
Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez.
Trop vivement l'été, Stéphane. Vous viendrez me voir un peu ?
Ouais.
Dans le sud ?
À Saint-Tropez ?
Oui, pas loin.
Ah ouais.
Tout non,
moi, je ne viendrai pas. Hein. Surtout, écoutez Dick Rivers,
vous n'êtes pas invité.
Pendant les vacances,
ah
merci.
Bah ouais, on
non, enfin, vous savez qu'on ne lance pas des invitations comme ça en présence de ceux qu'on ne prétend pas inviter chez soi, c'est très très grossier.
Mais parce que vous serez tous invités, évidemment, la maison est grande.
Alors est-ce que Dick Rivers, et il aurait été l'invité officiel...
Le cousin d'Obama.
C'était sur le Mayflower, ils ont des ancêtres communs.
Écoutez, alors, non.
Mais
donc,
oui.
Mais non.
C'est faux.
Il n'y était pas.
Vous avez...
On a eu chaud, bonne réponse, 2 points, égalité, c'est faux, Dick Rivers, Dick Rivers avec Barack Obama, n'importe quoi.
Dick Rivers, ça vaut 2 points.
Alors, Dick Rivers, ça vaut 2 points, parce que Dick Rivers est au cœur de l'histoire. Dick, en revanche, a fait quelque chose d'étonnant, il a monté les marches du Festival de Cannes en 2005 avec George Lucas pour la sortie de Star Wars, parce que la fille de Dick a été en couple avec George Lucas, et ça, c'est la classe. Voilà C'est la fois où,
ça vient de
où
loin,
Dick
c'est...
a tutoyé les étoiles.
Mais au moins, vos deux points, vous les avez mérités. Vous voyez, c'est pas comme mieux.
Ça nous permet d'accéder à la question 5, celle que vous attendez tous, trois propositions.
Vous attendez.
C'est le quiz, c'est la question de rapidité. Attention, Charles Darwin est mort à 73 ans. Abraham Lincoln est mort à 56 ans. Ils sont nés le même jour, mais... Trois propositions. Darwin est né 30 ans plus tard, Lincoln est né 30 ans plus tard, ou exactement la même année?
Ils sont nés exactement la même année.
Double bonne réponse, mais la rapidité m'oblige à décréter que c'est Clémentine qui remporte le quiz. Stéphane, vous avez perdu, c'est tellement dommage. Mais quelle était cette année? Si vous me donnez l'année, vous remportez le quiz.
Non, mais qu'est-ce que ces manières, enfin?
1874.
Alors 1809, non seulement vous perdez, mais
il est mort à 56 ans en 1865, Abraham Lincoln.
Il est né après être mort.
Si vous n'avez rien compris, 39-21. Si vous voulez protester.
C'est-à-dire, les bonnes réponses dans ce quiz ne servent à rien. Puisque finalement, on perd pour des.
Non, c'est une question de rapidité. Decrivers. C'est une question de rapidité.
Ok, merci
Stéphane.
Mathieu.
Vous n'avez pas été assez rapide. Il faudra être plus rapide demain.
Ouais. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous embarque chaque après-midi dans un fascinant voyage à travers les siècles, à la découverte de trois personnages très différents, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, Mathieu, trois femmes, trois reines, mais elles n'avaient pas de couronne.
Et Dieu sait qu'une reine sans couronne, c'est un peu comme un animateur radio sans syntaxe.
Demain, ils se sont mis au parfum.
C'est gênant, convenez-en Stéphane. Hein. Je vous le ressortirai toute l'année, celui-ci.
Oui, mais je vais vous en sortir d'autres.
Vous ne perdez rien pour attendre, mon cher Mathieu. Ne pensez jamais que votre place dans ce studio... est acquérie, comme vous le dites si bien.
Oui, une fois.
Oh, ouais. Oui, bah oui, mais il suffit d'une fois. Hein. En attendant, je vous parle en effet, après Louise de Savoie, d'une autre reine sans couronne de l'histoire, Lady Hester Stanhope, une aristocrate, qui avait, vous allez le voir, un goût assez prononcé pour l'aventure.
Ça tombe bien, j'aime l'aventure. Un peu comme notre troisième personnage du jour, la contemporaine de l'étape, elle non plus. Elle n'a pas de couronne, en revanche, elle a tout le reste, y compris le statut de reine, reine de la pop. Je vous raconte le destin de Beyoncé. Avec nous également en studio pour cette deuxième heure, nos experts de l'histoire. Enfin, quand je dis experts, le genre d'expert qui peut quand même vous dire en antenne juste avant sa chronique parce qu'il a un doute sur le sujet qu'il est censé avoir bossé.
Me posez pas la question, mais je n'ai pas la réponse.
David Castello-Lopez, vous nous racontez aujourd'hui les origines du V de la Victoire.
Oui, tout à fait, le V de la Victoire, qui est aussi le V des touristes asiatiques. Vous verrez, j'ai voyagé
Voyager, on sait que vous avez beaucoup voyagé, on est très jaloux d'ailleurs.
À vos côtés, David, pire qu'une reine sans couronne, un cuisinier sans casserole. Olivier, aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie.
Ouais, moi, j'ai voyagé aussi.
Avec un classique de la pâtisserie.
Bah, c'est vraiment bavarois.
Le bavarois.
Il y a plusieurs versions de bavarois, vous verrez.
Ah ben voilà. Alors là, je tiens à saluer la régie, on travaille avec des gens d'une exceptionnelle réactivité, puisque là j'ai appuyé sur le petit bouton pour voir la régie, je leur ai dit, il faudrait que d'ici la fin de l'émission, on ait un petit yodel bavarois. Et là, le mec me regarde, il me fait un clin d'œil, et il envoie le yodel qu'il avait déjà préparé. Je dis bravo aux
techniciens d'Europe 1. Ce qui serait encore plus fort, c'est que la porte s'ouvre et que des bavarois arrivent.
Alors attention, j'appelle la régie, ça serait bien qu'on ait des bavarois qui arrivent, si vous pouvez les payer.
Des bavarois à quoi?
Bah, vous les préférez à quoi? On en parlera tout à l'heure, mais il y a des bavarois aux fruits, mais il y a aussi... Oui. Moi, je vous parlais d'un de mes préférés, qui est le bavarois au café, mais je ne vous en dis pas plus maintenant.
Après le café, vient le moment du digestif. Boire un petit canon, mais Stéphane, d'où vient cette expression?
Si c'est petit, ça va, parce que c'est avec modération.
Bien sûr.
Mais d'où vient cette expression?
Je ne sais pas.
On peut dire aussi boire un bon canon.
Qui est censé le savoir.
Justement, je vais vous le raconter tout à l'heure. Soyez patient.
Mais je suis patient, mais néanmoins excité. Tout de suite, partons à la rencontre de notre deuxième reine sans couronne. Elle était anglaise, elle était aristo, elle aimait l'aventure. Stéphane Bern nous raconte Lady Hester Stanhope.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans les jardins du château de Chevening dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre, Lady Hester Stanhope chevauche un pur sang en Amazone. Dans les veines de la cavalière coule du sang bleu. Cette jeune lady, née en 1776, est la petite-fille de William Pitt et la nièce de William Pitt. William Pitt l'ancien et William Pitt le jeune.
Ah oui, parce que sinon j'étais perdu.
Ça peut pas être le même. Hein. Et en plus d'avoir le même nom, ils ont tous les deux été premiers ministres du roi d'Angleterre, George III. Ce lien de parenté, Esther le tient de sa mère qui décède alors qu'elle n'a que 4 ans. Voilà pour son rang. Son originalité, elle vient sûrement de son père, le comte Stanhope, un lord excentrique aux idées progressistes marqué par la Révolution française, qui a renoncé à ses titres de noblesse et refuse de porter la perruque à la cour. C'est un inventeur de génie qui passe tout son temps dans son laboratoire pendant qu'Esther perfectionne son talent de cavalière. Un été, en vacances au port d'Hastings, la petite Esther, qui n'a que 9 ans, aperçoit au loin les côtes françaises. La nuit venue, la voilà qui monte dans une barque et tente de gagner la France à la rame. Elle a déjà la soif d'aventure, mais il faut s'armer de patience. Adolescente, Esther quitte le château de Chevening pour rejoindre son oncle adoré, William Pitt le Jeune, dans un austère château fort près de Douvres. Le premier ministre, qui se dévoue entièrement à la cause de son pays, n'a pas d'enfant. Esther est donc comme sa fille, son amie, sa confidente. Elle s'occupe de sa maison et le suit au 10 Downing Street.
Elle le suit où, Stéphane, exactement?
Au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre.
Yeah.
Lorsque son protecteur meurt en 1806, la vie d'Esther s'écroule. Elle, qui subjuguait tous ceux qu'elle rencontrait, le roi lui-même, et devait refuser maintes avances, se retrouve abandonnée. Grâce à son ascendance, elle hérite d'une pension du Parlement, 1000 livres sterling par an. Ce n'est pas suffisant pour changer de toilette 3 fois par jour. Lady Stanhope se réfugie au Pays de Galles et s'isole dans un cottage. La nouvelle de la mort du général John Moore, dont elle s'était éprise à Londres, la plonge dans la dépression. Alors, quand son frère James s'apprête à rejoindre l'Espagne, c'est décidé, elle partira avec lui. Deux domestiques et un médecin du nom de Charles Marion l'accompagnent. Lady Stanhope ne remettra plus jamais les pieds en Angleterre. Le voyage commence au gré des flots et des sentiments. À Malte, en 1810, elle rencontre Michael Bruce, un jeune homme de 23 ans. Elle en a 35. C'est le coup de foudre. Elle écrit à son père, Crawford Bruce, un riche banquier qui a fait fortune en Inde, pour lui avouer ses sentiments. Si elle l'aime à la folie, elle précise bien qu'elle ne l'épousera pas. Impossible pour elle de conjuguer son envie de liberté aux liens étroits du mariage. Crawford Bruce est ravi pour la nouvelle. Il en est sûr, cette lady va faire de son fils un grand homme. C'est donc lui qui prend en charge les dépenses des deux amants. Un tour dans les Cyclades et à Athènes, puis cap sur Constantinople. Esther Stanhope arpente les souks à cheval, toujours en Amazone, un turban sur la tête. Dans un bateau à destination d'Alexandrie, son esprit vagabonde en imaginant ce qu'il attend derrière les vagues de la Méditerranée orientale. Soudain, le ciel s'assombrit. Une effroyable tempête oblige les aventuriers à monter dans un canot de sauvetage. Ils s'échouent sur un rocher près de l'île de Rhodes. Du naufrage, Esther ne sauve quasiment rien. Ses toilettes et ses bijoux sont au fond de la mer. Et alors, notre héroïne s'habillera en homme. En Égypte, le pacha Mehmet Ali, honoré de sa visite, l'accueille dans son harem. Allongée sur un sofa, à l'aise dans son sarouel, Lady Stanhope déguste un sorbet et boit du café. Si elle n'a pas encore appris à fumer le narguilé, elle se fond parfaitement dans le décor. À mesure qu'elle s'enfonce dans l'Orient fascinant, son look se métamorphose. À Jaffa, elle porte le costume mamelouk, chemise en satin à longues manches, veste rouge, pantalon bouffant brodé d'or. À Nazareth, Lady Stanhope rencontre un orientaliste suisse qui lui parle de Palmyre. C'est décidé, elle ira dans cette ancienne oasis des routes de la soie. Avant cela, à l'été 1812, elle passe un séjour chez l'émir Béchir, à la tête des Druzes, une secte musulmane. Il est impressionné par Esther, comme tous les pachas, sultans et émirs qui lui baisent les mains et lui offrent des présents. Elle se fait respecter alors même qu'elle ne respecte pas toutes leurs traditions. À Damas, elle défie la loi islamique en refusant de voiler son visage. La voyant galoper comme un homme, les bédouins s'inclinent sur son passage et l'appellent Meleki, la reine. Une légende se crée autour d'elle. On raconte que son cheval vaut des millions et qu'elle a sur elle un livre avec l'emplacement d'un fabuleux trésor. Escortée par 20 cavaliers et 39 chameaux chargés de provisions et de présents, Lady Stanhope entame sa traversée du désert de Syrie. Michael Bruce et Charles Marion, barbus et habillés en bédouins, sont méconnaissables. On dirait des chefs arabes. Après de chaudes journées et autant de nuits à camper sous les étoiles, les hautes colonnes de Palmyre se dressent à l'horizon en mars 1813. Un cortège incroyable attend nos voyageurs. Au rythme des chants et tambours des poètes, de jeunes filles dansent dans des voiles transparents.
Lady Stanhope est couronnée par un enfant. Une couronne de fleurs, mais une couronne quand même. « Mêlez qui ?» crie la foule. « J'ai été couronnée reine du désert sous l'arc de triomphe de Palmyre. Toute la Syrie chante mon courage et ma victoire, » écrit Esther avec fierté. Elle se sent comme Zénobie, qui, vous le savez, Mathieu, a régné sur Palmyre
au
troisième siècle de notre ère.
Bien sûr, je le sais.
Le rêve se dissipe brutalement à l'arrivée d'une invitée surprise, la peste.
Ah.
C'est pas vous, hein, qui fait son grand retour en Orient.
C'est comme c'est mon nouveau surnom, oui, la peste.
La peste.
D'accord.
Lady Stanhope l'attrape, son médecin met rien aussi. Crawford Bruce, dont l'argent a été dilapidé par le couple, exige le retour de son fils. Michael rentre alors en Écosse. Esther, qui a su tenir tête aux chefs arabes du Moyen-Orient, défie la maladie, mais les séquelles nerveuses sont sévères. Lady Stanhope se retire d'abord à Marelias, au Liban, puis dans un ancien monastère à Joun, et se prend de passion pour la divination. Elle raconte pouvoir décrire une personne grâce à son signe astrologique. À Lamartine, je parle du poète, qui lui rend visite en 1832, elle prédit un brillant avenir. Au milieu de ses chats, ses drogues, ses cartes et sa boule de cristal, l'ancienne reine du désert termine sa vie dans la misère. Elle dépense sans compter pour accueillir des centaines de réfugiés fuyant la guerre menée contre les Turcs par l'Égyptien Ibrahim Pacha. Criblée de dettes, elle n'en est pas moins riche de ses extraordinaires aventures. Lady Stanhope meurt à 63 ans en juin 1839, à plus de 4000 kilomètres de son Angleterre natale, après avoir mené sa vie comme elle l'entendait.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Lady Esther Stanhope, nous sommes avec l'auteur qui lui consacre son dernier ouvrage, Laure Dominique Agnel. Bonjour Laure Dominique.
Bonjour.
Oui, Laure Dominique Agnel, vous êtes auteur, exploratrice, féministe. Vous venez de publier Lady Stanhope, l'Amazone du Liban aux éditions Talendier. L'Amazone du Liban, vous le dites dans une note au lecteur qui l'introduit, que dans la mythologie grecque, elles étaient des femmes guerrières formant une tribu où aucun homme n'était admis. Pourquoi ce terme colle-t-il si bien à Lady Stanhope qui pour autant voyageait avec des hommes ?
Oui, d'abord parce que c'était une excellente cavalière et qu'elle montait en Amazone comme toutes les dix qui se respectent. Mais vous l'avez dit, elle se distingue des Amazones mythologiques car bien loin d'exclure les hommes, elle aimait beaucoup être en leur compagnie.
Si le destin de Esther Stanhope est méconnu en France, enfin en tout cas assez méconnu, vous soulignez dans votre livre que ses aventures au Liban sont contées de génération en génération. Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, dans sa trajectoire et pourquoi vous êtes identifié quelque part à elle ?
Eh bien, j'ai vécu comme elle au Liban quand j'avais 20 ans. Comme elle, j'étais attirée par la culture arabe, la musique arabe, l'architecture arabe. Et comme Lady Stanhope, j'ai adoré la montagne libanaise qui s'élève à plus de 2000 mètres par endroit. Et enfin, comme elle, j'ai connu la violence des conflits qui secouent la région depuis tant d'années. Mais je vous rassure, l'identification s'arrête là.
Heureusement, oui, parce que la peste, c'est pas non plus la meilleure des rencontres.
Ça vous a choqué, ça vous a fait peur, ça, Stéphane, non, j'ai senti.
Oui, parce que ça a eu des séquelles incroyables. Reine de Palmyre, Amazone du désert, astrologue, chercheuse d'or, sorcière du Liban. C'est vrai qu'elle a un côté caméléon qui est fascinant, Lady Stanhope.
Ben, les personnages qui ont plusieurs facettes, plusieurs vies, sont toujours fascinants. Et ce qui m'a intéressée chez elle, c'est sa capacité à transgresser les limites imposées par la société de son époque. D'abord, les conventions de l'aristocratie anglaise, et puis tous les tabous des sociétés arabes et turques du XIXe siècle. Et c'est quelqu'un qui ne se soumettait à aucun diktat, à aucun pouvoir. Et c'est ça aussi qui m'a fascinée.
Alors justement, reprenons un peu le fil de sa vie qu'a déroulé déjà Stéphane, comment une fille de Lord qui a vécu un temps au 10 Downing Street à Londres est devenue comme ça la reine de Palmyre ? Qu'est-ce qu'elle fuyait ? Est-ce qu'elle fuyait quelque chose plus que le goût de l'aventure ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle fuyait peut-être la platitude, les convenances, les codes sociaux comme vous l'avez dit ?
Oui, absolument. Elle fuyait certainement la banalité d'une vie sans surprise en Angleterre, où le destin des femmes à l'époque était de se marier et de faire des enfants. Mais à mon sens, elle fuyait aussi la tristesse, les deuils, une sorte de dépression. Et il faut dire qu'elle a perdu en moins de 3 ans les personnes qu'elle aimait le plus au monde, son oncle, William Pitt, le premier ministre britannique, sa grand-mère, Lady Chatham, son jeune frère Charles, et celui à qui elle était quasiment fiancée, le général John Moore. Alors on comprend qu'elle ait envie de se changer les idées et de partir en voyage.
Mais ce qui est fou quand même, c'est son côté aventurier qui s'est dessiné très tôt, quand elle n'avait que 9 ans et qu'elle saute dans une barque pour gagner la France à la rame. On imagine assez bien à ce moment-là que la suite de sa vie ne sera pas linéaire. Au fond, son principal moteur, c'est aussi cette soif de liberté, et puis peut-être aussi une curiosité.
Oui, son côté aventurier se dévoile dès l'enfance, en effet. Mais je voudrais vous raconter quelque chose. Quand vous dites à un enfant « ne va pas là-bas, il y a une grosse bête », il y a deux types de réactions. Il y a l'enfant qui a peur et qui se réfugie dans les jupes de sa mère. Et puis, l'enfant qui dit « il y a une grosse bête, je veux la voir ». Alors, je vous laisse imaginer quelle aurait été la réaction de la petite Esther Stanhope.
Lady Stanhope a quand même pris des risques, on peut dire, inconsidérés en osant tenir tête au chef arabe du Moyen-Orient. Est-ce qu'elle en avait conscience de ça ou c'était un peu une tête brûlée ?
Ah non, ce n'était pas du tout une tête brûlée. N'oublions pas qu'elle avait travaillé aux côtés de son oncle, le Premier ministre. C'était une femme politique qui savait se faire respecter. Elle était d'ailleurs très habile. Elle parlait aux chefs turcs ou arabes d'égal à égal et elle savait très bien comment obtenir leur protection. Je pense aussi qu'elle les subjuguait par son audace, comme par exemple quand elle refusait de se voiler devant eux ou quand elle se promenait dans les rues de Damas ou de Constantinople. En fin de compte, tous l'admiraient et la respecter. Lorsque, par exemple, l'Égyptien Ibrahim Pacha a envahi la Syrie occupée par les Ottomans, mettant la région à feu et à sang, eh bien, elle a accueilli des centaines de réfugiés dans son château de la montagne, mais personne n'a osé l'attaquer.
Au bout de sa traversée du désert de Syrie, Lady Stanhope est sacrée reine. Mais, comme vous le racontez, ce couronnement est quand même un peu fantasmé. Vous écrivez « Bien sûr, elle idéalise, sa couronne est une guirlande de fleurs, son palais un campement poussiéreux, sa cour une horde hétéroclite où se mêlent des bédouins et des anglais déguisés en nomades sur leurs chameaux fatigués, sa cité, une oasis modeste bordée de ruines monumentales. »
Oui, bah j'ai rien à ajouter. En effet, vous avez raison. Il faut imaginer la scène. Elle arrive à Palmyre à la tête de cette caravane de plus de 30 chameaux avec ses 20 cavaliers qui portent des lances, qui brandissent leurs lances brillantes. Alors, les habitants de Palmyre ne voient pas passer ces gens-là tous les jours. Et ils l'ont prise pour une reine parce que c'est aussi la première femme occidentale à entrer dans cette cité du désert. Alors quand elle défile, en effet, au milieu des ruines romaines gigantesques, eh bien les jeunes filles se mettent à danser, la foule crie « Méléki, Méléki, reine !» et un petit enfant dépose cette couronne de fleurs sur la tête. Elle rêve effectivement d'être reine de Palmyre, mais c'est aussi le symbole pour elle du but réalisé. Elle avait ce rêve depuis quelques années, elle le préparait depuis plusieurs années. Finalement, elle vit elle-même son rêve en entrant à Palmyre.
Alors, et puis elle a pas seulement repoussé les frontières physiques, elle a aussi fait exploser les barrières de genre en étant tantôt femme, tantôt homme. Elle était finalement très en avance sur son temps à ce niveau-là.
Ça, c'est très intéressant parce qu'il faut rappeler que nous sommes au début du 19e siècle. Et en effet, elle transgresse totalement le genre en se présentant tantôt comme un homme, tantôt comme une femme. Et quand ça l'arrange, elle est femme. Lorsqu'elle veut, par exemple, entrer dans les harems, c'est indispensable parce que les hommes sont interdits, comme vous savez. Mais la plupart du temps, elle s'habille en homme depuis qu'elle a perdu tous ses biens dans un naufrage. Et puis, elle trouve ça beaucoup plus confortable, particulièrement pour monter à cheval.
Merci beaucoup, Laure-Dominique Agnel, pour tout savoir sur Esther Stanhope. Je vous invite, chers auditeurs, à lire Lady Stanhope, l'Amazone du Liban, qui vient de paraître aux éditions Talendier. En tout cas, ça, voilà, c'est une femme...
qu'on a envie de mieux connaître.
Ah oui, vraiment. Merci beaucoup, Laure-Dominique Agnel.
Merci
beaucoup. Merci. Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque les reines sans couronne de l'histoire. Après Louise de Savoie et Lady Esther Stanhope, Mathieu, vous nous brossez le portrait. Bon, à 99% vrai.
Comme toujours.
D'une reine sans couronne plus récente et surtout vivante.
Fermez les yeux, Stéphane. La physique n'existe pas. Les gestes barrières non plus. Nous sommes dans un stade plein à craquer, dans la fosse. Ça fait 8 heures qu'on campe là pour être sûr d'être au premier rang. Sur la scène, une diva, une reine, probablement la plus célèbre chanteuse au monde, la star numéro 1 de toute une génération. Stéphane, vous l'avez reconnue.
Dorothée.
Non, alors non Stéphane, pas cette génération-là. Je vous parle aujourd'hui de la star de la génération d'après, celle qui n'aura pas d'emploi et pas de retraite, Beyoncé. Oui, on a changé de génération, Stéphane. Enfin, c'est pas possible. Je sais que vous vivez dans un autre temps musical, plus proche de la chance aux chansons de Pascal Sevran que de la playlist Urban Vibes de Spotify. Mais quand même, le matin, quand vous vous préparez pour vous motiver, vous n'écoutez pas Beyoncé ?
Ben non, j'écoute Laurent Cabrol.
Ah oui, donc bon, pour vous la faire courte, Stéphane, Beyoncé, c'est peu ou prou la plus grande star de la chanson actuelle. Beyoncé en chiffres, c'est plus de 750 375 965 vues sur YouTube, 28 Grammy Awards, ça c'est carrément le record absolu, et une fortune estimée à 400 millions de dollars, sachant que chaque concert lui rapporte 6 millions de dollars. De quoi relativiser votre contrat en or avec Europe 1, Stéphane.
On se fait chier tous les après-midi pour ça.
Oui, enfin, vous n'êtes pas spolié non plus, hein. 1 million par émission, ça reste correct.
Oh non, bah alors,
c'est facile. C'est facile d'énumérer les chiffres concernant le comptable d'Europe 1. Alors, c'est facile d'énumérer les chiffres concernant Beyoncé, mais comment en est-elle arrivée là ? Formulé autrement, comment devient-on la plus grande star planétaire en étant à la fois une icône de la mode, une héroïne féministe, une businesswoman puissante et un porte-voix pour la communauté afro-américaine ? Eh bien, Stéphane, en calculant tout, toujours et depuis toujours. Beyoncé Giselle Knowles vient au monde le 4 septembre 81 à Houston, au Texas. Dès son plus jeune âge, elle chante et danse, manifestant des dispositions exceptionnelles que nous qualifierons d'exactement inverses à celles de Stéphane Bern.
It's killing me, I must confess.
Vous imaginez l'inverse de Stéphane Bern, vous avez Beyoncé. Très vite, à l'école... Oui, it's you. Très vite, à l'école Montessori qu'elle fréquente, il semble évident à tous, enfants, profs, parents d'élèves, que Beyoncé ne sera pas assistante dentaire. Le génie de l'entertainment coule dans ses veines. Son papounet, dont le flair n'est pas sans rappeler celui du père de Venus Williams, se dit « Tiens, et si je capitalisais sur le talent de la gosse en en faisant la plus grande star du 21e siècle ?»« Super idée, chaton !» lui dit sa femme. « On n'a qu'à faire ça, mais n'oublie pas de racheter du PQ au Walmart. » Poussé par des parents qui ont donc très bien su repérer son potentiel, Beyoncé va se mettre à travailler très tôt, enchaînant des centaines d'heures de répétitions et de cours, participant à de nombreux talent shows locaux qu'elle remporte souvent. Elle n'a que 8 ans quand elle et son amie d'enfance Kelly Rowland rencontrent Latavia Robertson lors d'un casting pour un girls band. Ce sera Girls Time. Petit côté Jackson 5, mou. Le succès reste local, mais Matthew Knowles, le papounet, décide de prendre les choses en main. Il quitte son job et devient le manager du groupe qui, sous son impulsion, va devenir les Destiny's Child. Ça, même Stéphane connaît.
J'adore.
Mais en même temps, le fait que Stéphane aime quelque chose n'est pas non plus un label hyper prestigieux. Non, il a tendance à aimer tout et n'importe quoi. Pour mémoire, précédemment, dans Bern, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
J'adore les momies, moi. J'adore le Brésil.
Le sexe et la perversion.
Moi, j'adore les cornichons. Il y a un truc aussi que j'adore, c'est le camembert au calva.
Bref, que Stéphane aime les Destiny's Child ne suffit pas. Il faut que le monde aussi adhère. Et c'est précisément ce qui va se passer. Destiny's Child devient en un album l'un des groupes R&B les plus populaires du moment. Avec notamment... Ou encore le tube Survivor. Il s'écoute au premier degré à la salle de sport, mais que vous pouvez aussi diffuser au second lors d'un enterrement, si et seulement si le défunt avait de l'humour. Problème, les Destiny's Child ne sont quatre, et c'est clairement trois de trop pour Matthew Knowles, qui verrait bien sa fille triompher en solo. Il remercie donc poliment les autres pour préparer la phase B de son plan, faire de Beyoncé la reine du R&B, Queen Bee, comme on l'appellera bientôt. Il faut dire qu'elle a toutes les qualités, non seulement elle assure sur scène, elle chante et danse merveilleusement, mais en plus elle écrit. Son premier album solo, Dangerously in Love, sort en 2003. Non pas un, mais deux tubes interplanétaires, Crazy in Love et Naughty, qui nous auront fait faire des conneries en boîte, pas vrai David ?
50 grammes !
Wow ! Deux explications au succès, le talent, ok ? Mais surtout le perfectionnisme. Beyoncé a fait passer une sorte de casting au producteur qui aurait la chance de bosser sur cet album. Le résultat, un carton énorme et l'officialisation de sa relation avec le rappeur Jay-Z. Stéphane, je ne vous fais pas l'insulte de vous expliquer qui est Jay-Z.
Je sais que
le R&B, le rap et plus globalement la street culture n'ont pas de secret pour vous.
Keep your head up, strictly for my niggas.
Donc Stéphane Bern, Jay-Z, Stéphane Bern. Pour Beyoncé, les Grammys commencent à tomber comme à Gravelotte. Fall like in Gravelotte. En 2004, année de sa première tournée solo, elle chante l'hymne national américain à la mi-temps du Super Bowl. Clin d'œil du destin, c'est aussi cette année-là que Stéphane chante l'hymne national belge à la finale du championnat de Wallonie de Sudoku par équipe. Moins de retentissement médiatique. 2008, pas d'album, mais un sacré battage médiatique puisque Beyoncé épouse Jay-Z, devenant ainsi le power couple ultime, plus d'un milliard de dollars à eux deux. Les albums suivants connaissent le même succès que le premier, ils sont toujours savamment dosés entre pop et R&B afin de contenter ses fans de la première heure tout en séduisant de nouveaux publics. Mais Beyoncé ne se contente pas d'être épatante sur scène, la manière dont elle gère sa carrière est aussi pleine d'astuces, comme en 2013, quand, à rebours de tout ce qui s'est toujours fait dans l'industrie du disque, elle sort son nouvel album sans prévenir personne, les fans le voyant apparaître un vendredi soir comme ça sur iTunes, alors qu'ils étaient peinards devant Thalassa. C'est vraiment la surprise comme ça qui déboule, un coup marketing incroyable. Innover tous azimuts dans la musique, mais aussi dans la manière de la vendre, voilà comment Beyoncé prend le contrôle du game. Ses clips ne sont plus des clips, mais carrément des films à gros budget. Beyoncé n'est plus seulement une chanteuse, mais une marque. Certains estiment qu'elle s'est inspirée de la stratégie d'Apple. Beyoncé, c'est l'anti-Whitney Houston. C'est pas une diva, c'est une businesswoman. Qui sait aussi tisser sa toile et cultiver des relations extrêmement haut placées. Elle déjeune souvent avec Barack Obama. Niveau relations, avouez que c'est mieux que Stéphane.
À 13h30, je dois déjeuner avec Blanquer.
Voilà. Aujourd'hui, Beyoncé est plus influente que jamais.
Barack Obama, c'est très important.
C'est quand même mieux que Blanquer, oui. Elle est devenue une voix qui compte pour la parole féministe et la défense des droits civiques. Oui, et c'est pas qu'une posture. Non, Stéphane, c'est pas une posture. Elle se produit sur scène avec un groupe entièrement féminin. Et comme elle l'expliquait dans son documentaire Life is but a Dream, elle a une politique d'embauche au sein de sa compagnie qui favorise les femmes, qu'elle place aux postes les mieux rémunérés. Quelle plus belle ambassadrice pour le féminisme que Beyoncé. Comme disait Stéphane un soir qu'il dînait chez Chalençon avec Fabien Lecoeuvre.
Pour délivrer un message féministe, on n'est pas obligé non plus d'être moche.
Beyoncé est belle, féministe, et elle n'hésite pas à le clamer. Dans une Amérique où les artistes ont encore bien souvent peur d'affirmer leurs convictions, Beyoncé, c'est aussi une maman depuis 2012, maman de la petite Ivy Blue. C'est peut-être pour elle qu'elle a participé en 2019 à l'album The Lion King, The Gift, qui accompagnait la sortie de la version live-action, comme on dit, du Roi Lion. La voix-off de la bande-annonce a cette formule « Vous ne pouvez pas porter une couronne, la tête baissée ». Une phrase qui résume, je crois, assez bien la vie de Beyoncé. Et souvenez-vous, Stéphane, de la morale de cette chronique. Who run the world ?
L'argent ?
Non, les girls, Stéphane, les girls ! Est-ce que je fais bien Beyoncé, Stéphane ? Est-ce que vous trouvez que j'ai le groove quand même ?
Vous êtes sur votre tapis en train de faire la salle de sport.
Non, surtout que j'ai un balai dans le cul, c'est ça que vous voulez dire et vous n'osez pas le dire.
Et Jay-Z, il est devenu quoi dans sa vie ?
Ils sont toujours, c'est toujours. Jay-Z, il est producteur et il est milliardaire parce qu'il a lancé, je crois, un service de streaming.
C'est si. Beat, c'est pas les casques là, Beat, non, c'est pas lui ça.
Il y a ça aussi.
Il fait du champagne. Exactement. Aussi. Il a une petite marque de champagne.
En fonction de leur spécialité, nos chroniqueurs connaissent tous les champs d'activité de Jay-Z.
Il est sympathique ce Jay-Z.
Il a l'air fort sympathique. Oui. C'est à lui que vous avez dit qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Voilà, c'est ça. Non, parce que j'ai dîné un soir en face de lui. Et tout le monde le prenait en photo. Et je lui ai dit, mais vous devez être très connu. Il m'a dit, oui, voilà.
J'ai
il
une petite carrière de musique. Je fais un peu de musique, comme ça, voulez, ça marchote.
Mais il a beaucoup aimé, on a passé une très bonne soirée. Voilà. Très sympathique et bien, très bien élevé. Merci Mathieu, c'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux. C'est tout ce qui me concerne.
Vous ne dînez pas avec Chalençon ?
Non, ni avec.
Ni avec d'autres. Ouais.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Grâce à lui, vous savez d'où viennent les gilets pare-balles, vous savez comment fabriquer de l'amiante. C'est David Castello-Lopez qui remonte aux origines des inventions. Aujourd'hui, levé de la victoire, David.
Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve que les mains, c'est génial.
C'est
super. Par exemple, sans les mains, c'est impossible de faire la caquette à Jacques Chirac, par exemple. Vous savez ce que c'est, la caquette à Jacques Chirac ?
Alors, je ne suis pas au courant.
La caquette à Jacques Chirac, comme ça. Vous avez jamais fait ça dans la cour de la
réaction ? Oui, j'ai fait ce geste.
Je sais pas, mais on appelait ça la caquette à Jacques Chirac.
C'était dans votre école. Peut-être. C'était limité à votre école primaire et chacun avait son interprétation.
Non, mais c'est vrai. Les mains, c'est super pour faire la caquette à Jacques Chirac. C'est super aussi pour faire tous ces trucs qui permettent de communiquer sans parler. Lever le pouce pour dire super. Mettre sa main à plat et la faire osciller de droite à gauche comme une sorte d'avion dans la tempête pour dire
coussi-coussa,
bof. Et évidemment, si je fais un V avec mon index et mon majeur, ça veut dire le plus souvent, soit j'ai gagné, soit Je suis content pour une raison indéterminée. Hein, voilà, quand on fait ça comme ça. Et c'est un signe qui a été utilisé en particulier par plein d'hommes politiques comme Richard Nixon.
Il n'a pas fait longtemps.
Hein. Pas fait très longtemps. Ou Jacques Chirac aussi, hein, non seulement pour, pour d'autres raisons que sa quéquette. Et aussi, si vous vous souvenez, par tous les hippies qui fumaient le shit dans les années 60 et qui s'en servaient pour dire en gros « je n'apprécie guère les conflits armés ». Vous voyez, c'était « peace and love » en quelque sorte. Et surtout aussi, c'est devenu, comme je le disais dans l'introduction, le signe favori des touristes asiatiques du monde entier. Alors le truc, c'est que c'est souvent assez difficile de savoir d'où viennent les signes de la main. Si vous prenez le doigt d'honneur, par exemple, il se perd complètement dans la nuit des temps. Mais le V de la victoire, lui, il a une histoire plus connue et plus récente. Et pour aller à la rencontre de cette histoire, j'ai dû prendre le Thalys pour Bruxelles.
Très beau train.
Voilà. Très beau train, le Thalys. J'aime bien la Belgique, moi, en fait.
Moi aussi.
Voilà, parce que vous êtes belge. Si je suis honnête, je connais que la Wallonie, mais c'est pas mal. C'est un peu une sorte de petite France en moins bien et moins cher, vous voyez.
Si on nous écoute là-bas.
Vous voulez que je vous parle du Portugal après ou ça va aller?
Je suis d'accord avec vous.
C'est que le Portugal, c'est comme l'Espagne en moins bien.
Avec des gens tout à fait.
Qui ont plus d'humour et qui sont moins arrogants.
C'est vrai. Ben oui, quand on n'a pas d'argent, on est. Et puis surtout, cette fois-ci, quand je suis allé à Bruxelles, j'ai pu rencontrer un monsieur qui s'appelle Francis de Lavelay. Francis de Lavelay, c'est le petit-neveu de Victor de Lavelay. Victor, c'était un homme politique et un journaliste qui, en 1940, quand la Belgique s'est fait rétamer par les nazis... Il est parti à Londres et c'est lui qui, pendant plusieurs années, sur la BBC, a encouragé les Belges à dire « fuck » au nazisme. Et le 14 janvier 1941, Victor de Lavelay, il a eu une idée dont il a parlé à la radio. Et donc, on a l'enregistrement de cette idée. Je vous propose de l'écouter.
Je propose comme signe de ralliement la lettre V. Pourquoi ? Parce que V, c'est la première lettre de victoire en français et de Freiheit, liberté en flamand.
Voilà,
je vous propose
le V de la victoire parce que V c'est victoire en français et c'est Freiheit, liberté en flamand. Donc il a lancé cette idée et cette idée elle a immédiatement cartonné. Elle a été reprise par Churchill qui a commencé à faire le V de la victoire aussi. Et rapidement, les alliés, ils ont commencé à faire le V de la victoire partout. Non seulement avec les doigts, mais aussi à la craie sur les murs et également avec du son. Et vous allez voir, c'est malin parce que en morse, la lettre V, ça se fait avec trois points et un trait. Ta-ta-ta-ta, ok ?
Ta-ta-ta-ta.
Or ça ressemble trait pour trait au rythme du tout début de la 5e symphonie de Beethoven, qui pour mémoire fait... Exactement, écoutons-les l'un après l'autre après pour bien se rendre compte. Or Beethoven, il est allemand, donc il est nazi-friendly. Donc dans la rue pendant la guerre, quand les résistants croisent un allemand et qu'ils font pop-pop-pop-pom, les Allemands ils se disent quoi ? Ils se disent « Oh, das ist Beethoven, das ist schön !» Alors qu'en fait, c'est le V de la victoire que fait le résistant et qui veut dire « Fuck le nazisme, on va gagner ». C'est dingue ça, non ? C'est fou,
c'est
ta-ta-ta-ta. Voilà, c'est quand même fou.
Bon, il reste fou parce que moi, je pensais que c'était Churchill, en fait. C'est le premier.
C'est un peu Churchill qui a repris.
Et
c'est un Belge. Et voilà. Oui. Bon, il reste quand même une question. Parce que pourquoi ce signe, c'est devenu le signe que, par ailleurs, tous les Asiatiques font sur les photos? Eh bien, c'était assez dur à déterminer, mais la théorie la plus répandue, c'est que ça vient d'une pub pour les appareils photo Konica de 1972, où on voit un monsieur japonais le faire. Alors aujourd'hui, il est un petit peu concurrencé hein, sur les photos de touristes, en particulier par un truc qu'on appelle le cœur coréen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le cœur coréen, c'est ça. C'est de prendre, alors c'est un petit peu dur de le montrer à la radio, mais c'est de presser son doigt et son index, de les tendre un petit peu comme ça. Et si vous regardez de près, ça fait une sorte de petit cœur, vous voyez? Et c'est un cœur coréen, c'est mignon. Et on le voit de plus en plus sur les photos, même si je pense que quand même, quand il s'agit de signifier la résistance face à l'adversité, moi, c'est toujours le V de la victoire que je préfère.
Le V de la victoire, vous connaissiez donc.
Mais je croyais que c'était Churchill.
Bah oui, moi aussi.
C'est popularisé par Churchill, qui était quand même sacrément plus influent que Victor de Lavelay.
Mais en tout cas, merci d'avoir rendu hommage. Et à Victor, d'ailleurs, Victor vient de Victoire, de Lavelay, et à la Wallonie. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site, évidemment, europe1.fr.
Oui. Et un autre Belge, aussi victorieux, souvent, en cuisine en tout cas, c'est Olivier Pouls qui arrive pour nous raconter les origines d'un plat. Mmh. Aujourd'hui, un plat qui est un dessert, entremets,
le bavarois. Vous donnant une irrépressible envie de yodeler.
Qui me donne On y est.
Et boire un canon.
Mais en revanche, il n'est pas absolument certain, malheureusement, que ce dessert dénommé le Bavarois.
Soit Bavarois.
Soit ah bon Bavarois. Il y a une théorie qui pense qu'il aurait pu arriver grâce à Isabeau de Bavière, oui, arrivée en France en 1385 pour épouser Charles VI. Et elle aurait apporté dans ses bagages, ou en tout cas avec, avec ses cuisiniers, ce dessert qui serait inspiré d'un, d'un ramouls, qui est un dessert pris, donc pris, c'est-à-dire gélifié, originaire de Bavière. Mais on pense plus vraisemblablement que ce dessert aurait été créé par un cuisinier français dont on n'a pas le nom, en l'honneur de différents seigneurs bavarois à peu près à cette époque-là. Alors qu'est-ce que c'est que le bavarois? C'est ce qu'on appelle, on l'a donc dit, un entremets ou un dessert. Il est froid. Il est moulé et il est soit composé d'une crème anglaise qui a été gélifiée et parfumée, agrémentée parfois d'un petit peu d'alcool et dans laquelle, je vous donnerai la recette dans un instant, on a rajouté de la crème. Ou alors, il peut s'agir d'une mousse de fruits, les bavarois plus légers qu'on trouve aujourd'hui et qui se situe en général en plusieurs couches. Vous voyez, vous avez framboise et puis vous avez fraises.
C'est le moment de la chronique où je réalise que je déteste le dessert, très Olivier.
Ah,
oui.
Ah bon?
Bah oui, c'est pas très, mais j'aime pas ça.
Parce
les mousses de
parce
fruits.
Parce qu'on, il y a pas beaucoup à mâcher. En
exactement.
Fait.
Ça manque de croquant et ça manque de.
C'est cher pour les gens qui n'ont plus de,
voilà,
de dents forcément.
Voilà. Tant que j'en ai, regardez. Stéphane, vous aimez beaucoup le bavarois.
J'adore le bavarois.
Oui, alors il en existe donc plusieurs variantes. Donc le bavarois normande, par exemple, qui se compose de compote de pommes et de calvados. Ça devrait vous plaire.
Alors ça, en revanche, ça m'intéresse plus.
Ouais. Le bavarois créole avec de la banane et du rhum.
Ça m'intéresse aussi.
Aussi. Et pourquoi pas le bavarois arabica avec du café. Moi, c'est
ça m'intéresse encore plus.
Ah oui, mais comment on le fait?
Eh bien, je vais vous donner la recette tout de suite.
Alors, mais ça, vous l'avez inventé ou ça, quand même, ça existe, le bavarois arabica?
Non, il existe. Non, je l'ai pas inventé. Après, on peut s'amuser à le parfumer. Il est beaucoup parfumé à la vanille aussi. Mais je trouve que le café, moi, j'aime bien le café dans les desserts. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, il vous faut pour 6 personnes 1 litre de lait entier, 4 jaunes d'œufs, 200 grammes de sucre, un petit expresso, 4 feuilles de gélatine et 20 centilitres de crème entière. Remarquez que c'est quand même assez simple et il n'y a rien d'extravagant dans les ingrédients. Donc on va beurrer des petits moules individuels, on va porter le lait à ébullition, on y rajoute le café, on fait à côté tremper la gélatine dans l'eau, toujours tremper les feuilles de gélatine quelques minutes dans l'eau, ensuite bien les essorer.
Est-ce qu'on peut travailler avec des feuilles d'agar-agar? J'aime beaucoup utiliser l'agar-agar.
C'est de la poudre en général, de l'agar-agar.
Oui, je sais.
Vendu en poudre. On peut mettre de l'agar-agar, une petite cuillère à café.
C'est ma touche personnelle, voilà.
C'est un gélifiant naturel issu d'une algue qui est beaucoup utilisée au Japon. Il a une propriété très intéressante, l'agar-agar. C'est qu'en plus, il tient la gélification à la chaleur. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose d'un peu chaud et qui reste gelé, alors que la feuille de gélatine, dès qu'on monte en chaleur, elle se reliquifie.
C'est pour ça que je privilégie l'agar-agar.
Il y a un petit snobisme dans la gelée. Ouais.
On nous ferait peut-être un jour l'origine de l'agar-agar, qui sait. Donc, j'en étais à mélanger mes œufs et le sucre. Je verse mon lait bien chaud par-dessus et je remue sur un feu doux de manière à avoir ce qu'on appelle une crème anglaise, en réalité. Je vais rajouter la gélatine, je vais monter ma crème en crème montée, je vais rajouter tout ça également ensemble, et puis je vais mettre dans des petits moules au frigo, prise 2 heures. Jamais au congèle, parce que ça déstructure en quelque sorte la belle texture de notre bavarois, donc frigo pendant 2 heures, et puis vous démoulez, et vous avez ce
et
petit
si on le fait dans
délicieux. Vous pouvez le faire dans un grand, bien sûr, aucun problème.
C'est plus sympathique que des petits ramequins.
Oui, puis c'est très Covid, en plus. Ouais.
Puis chacun, il va avec sa fourchette.
Avec les gens avec qui vous vivez, ça ne pose pas de problème.
Vous vivez avec qui en ce moment, Stéphane? Je ne suis pas au courant. Il y a combien de cuillères? Combien de cuillères dans le bavarois?
On n'a pas le droit à plus de 6. Hein.
Voilà. Ça tombe bien, la recette que je vous ai donnée, c'est pour 6 personnes. Hein.
Très bien.
Très bien, c'est familial. Merci beaucoup Olivier Pouls. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1. Stéphane Bern est chaud bouillant pour le mot de la fin. Il a surtout très envie de boire un canon.
Oui, loin de moi l'idée de faire ici la promotion de l'alcool en général, lever de coude en particulier. Mais l'expression du jour, c'est boire un canon. Vous savez, personnellement, je bois que du thé, donc je lève la tasse.
Buvez du thé avant 17h, mais après ça change. Je précise, boire un coup, boire un canon, il y a le coup de canon. Est-ce qu'il y a un lien où je me fourvoie complètement?
C'est vrai que beaucoup de linguistes avant vous, Mathieu, ont pointé du doigt ces similitudes. Le coup de canon évoque aussi les chopes qui s'entrechoquent au moment de trinquer. Puis on buvait d'un trait cul sec. Au passage, notez qu'on dit cul sec parce que quand on pose le verre, il n'y a plus de liquide dedans, donc le verre se retrouve cul sec. Mais boire un canon a en fait une toute autre origine. Au XVIe siècle, c'était une véritable unité de mesure pour le vin qui correspondait à un 16e de pinte soit 6 centilitres. Les verres, à l'époque, avaient cette exacte contenance, alors qu'aujourd'hui, ils sont plus autour des 9 ou 20 centilitres, selon si vous êtes invité à boire un canon chez Olivier Pouls ou Mathieu Noël. Au 19e siècle, l'expression « boire un canon » s'impose. Elle signifie « boire un simple verre de vin ». Quand on disait, d'ailleurs, « boire un canon soviétique », bah, c'était du vin rouge. Eh oui. Quand on utilisait le verbe « canonner », c'est qu'on enchaînait les ch'tis canons. Aujourd'hui, en Irlande, on dit « boire une jatte ». Aux États-Unis, c'est « to knock one back », on s'en tape un. En France, on peut aussi dire « s'en jeter un derrière la cravate », qu'on ait ou pas de cravate. Et chez les Roumains, c'est « bea un siosan », pardon pour la prononciation, ça veut dire...
On sent qu'il n'y a vraiment pas d'effort.
Là, il n'y a aucune volonté de tentative d'accent.
Non, mais parce que franchement, le roumain, c'est vrai... est une langue magnifique quand elle est parlée par des Roumains. Cela signifie boire un marteau. C'est pas spécialement goulayant. Et terminons avec une jolie phrase de Daniel Pénac, un ivrogne, ça raconte n'importe quoi, surtout la vérité.
Formidable Daniel Pénac. Notre spécial consacré aux reines sans couronne se termine. Stéphane, est-ce que, enfant, on sait que vous étiez déjà fasciné par les rois et les reines, vous jouiez à vous mettre une couronne sur la tête et à donner des ordres à vos peluches comme vous faites aujourd'hui avec vos assistants ?
Non, non, je n'ai pas plus d'assistants aujourd'hui que je n'avais de peluches à l'époque. Et j'étais pas plus fasciné
pas
que
plus
ça par les couronnes.
Vous couronniez jamais ?
Non, jamais. Non, j'aimais les couronnes chez les autres. Mais non, j'ai beaucoup aimé Louise de Savoie parce que...
Parce qu'on la connaît pas bien.
On la connaissait pas bien. Et puis que c'était la maman qui était toute puissante derrière le grand François Ier.
Mais oui. Demain, c'est avec un grand plaisir que je vais vous retrouver, Stéphane. J'ai hâte d'y être.
Oh oui, plaisir partagé, Mathieu. On se retrouve demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.